Mardi 17 avril, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné à l'animation, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, une émission assez chargée. Dominique Savoie va venir nous parler de l'exposition événement Arbre d'avril qui est présentée au Jardin Saint-Roch. Peut-être avez-vous vu les arbres qui sont un peu décorés de différents tissus. Peut-être avez-vous eu l'occasion aussi de voir le sosie d'une personnalité publique très connue à Québec. Bref, on en discute avec Dominique Savoie. Également, on discutera avec Amélie Laurent Fortin, directement d'Angleterre, pour parler de son exposition Exploit qui est présentée chez Vue Photo. On discute aussi, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé du lancement de la programmation de la manif d'Arcis. Bien, cette semaine, on rencontre Nicole Gingras pour discuter du tout. Donc, la manif d'Arcis qui a pour thème Machine, les formes du mouvement. On s'entretiendra d'art, mon Dieu, que c'est pas facile, je suis confuse, Bref, on parlera d'actualité en art visuel avec Raymond Poirier. Bonjour.
Bonjour, Julie.
Ça va bien?
Ben oui.
Oui, merci de parler et de me sortir un peu de ma confusion. Peut-être une petite nouvelle comme ça que tu nous lances.
Bien, notamment, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais on va revenir sur le lancement du Google Art Project, la deuxième phase qui a lieu en France début avril.
Et voilà, donc on en discute tout de suite après avoir écouté des pièces et après avoir entendu les suggestions de Simon Roy. Bonjour, Simon. Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Tu nous as choisi aujourd'hui, j'imagine, une musique originaire du Japon?
Ben non, c'est ça qui est drôle. Okay. C'est un duo qui vient de la Roumanie, mais qui trippent complètement sur le Japon. Le duo s'appelle Makunouchi Bento, donc c'est composé par Félix Petrescu puis Valentin Thomas. Donc, c'est deux acteurs assez importants de la musique électronique en Roumanie, un peu des pionniers. Puis, ben c'est ça, ils ont l'air adorer le Japon parce que le nom de leur groupe, Makunouchi Bento, c'est le nom des boîtes à lunch japonaises. Oui. J'avais une belle petite boîte à lunch, comme une boîte avec des compartiments.
Oui, super décoré.
Pardon?
Avec les plats souvent bien agencés, bien décorés.
Oui, c'est ça. Puis ça rappelle, ça évoque vraiment le genre de musique qu'ils font un peu, selon moi. C'est difficile à décrire. C'est un peu comme un genre de chaos organisé. Ça me fait penser beaucoup à une trame sonore de film japonais assez contemplatif. Donc, ça mélange toutes sortes de trucs, un peu de field recording, musique ambiante, électronique, un peu d'orchestration.
Oui, des fois, ça fait un peu fanfare même.
Oui, c'est ça par moment. C'est vraiment difficile à cerner. Il y a vraiment plein d'influences, des fois musique arabe. Donc, c'est vraiment un album super intriguant. Je l'écoute sur repeat depuis que je l'ai découvert. C'est publié sur une étiquette montréalaise. Donc, c'est vraiment tout de suite un peu étrange. Des Roumains qui font de la musique japonaise qui sortent ça sur une étiquette canadienne.
Ouais, donc, vive la mondialisation, hein?
Ben oui, c'est ça. Vive les internets, comme on dit. Donc, j'ai choisi pour les auditeurs quatre pièces tirées de leur album Rimbo. On va débuter avec la pièce Yuki Ona, suivie de Ame Ona, ensuite de ça, Baki Kujira, puis on finit avec Juboko. Donc, ça me permet de pratiquer mon japonais en plus.
Ben oui, merci mon roi, merci beaucoup. Puis on peut trouver les liens pour le téléchargement gratuit des pièces qu'on entend sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et toi, on peut t'entendre le dimanche soir de 8h.
Oui, toujours.
Voilà, donc à Web Musique. On s'en va en pause audio. Au retour, on discute avec Raymond Poirier.
Thank you.
Entendre un extrait de la pièce Yuki Onna, c'est tiré de l'album Rainbow du duo roumain Makunuchi Bento. C'était une suggestion de Simon Roy. Et j'avais tantôt donné la parole à Raymond Poirier qui nous avait parlé du Google Art Project. Donc, Raymond, peux-tu continuer à nous en parler?
Oui, en fait, un projet qui avait été initié en 2011, mais on s'en rappelle, il y a un an, ce n'était qu'une grande galerie virtuelle nourrie par 17 établissements occidentaux. Et pour 2012, ça s'est transformé en un musée de 32 000 œuvres alimenté
quand même,
par 151 institutions des cinq continents. Donc, ça a pris beaucoup d'espace. Et il y a eu présentation de la presse française au musée d'Orsay dans les derniers jours. Et l'idée étant justement de permettre d'explorer un peu cette nouvelle plateforme-là qui ouvre différentes perspectives quant à la recherche en art, la recherche pour les observateurs, évidemment, pour les spectateurs. Une plateforme qui, oui, d'un côté, permet aux gens d'un continent de contempler les chefs-d'œuvre qui sont sur un autre continent. Mais parallèlement aussi, on va plus loin que les musées d'art moderne. On va vers l'Acropole, les graffitis du musée de Sao Paulo, les peintures rupestres des grottes sud-africaines ou australiennes, les merveilles ouvragées du musée de l'art de Bogota. Donc, c'est vraiment varié, donc l'art au sens extrêmement large à travers toutes les époques également. Et en parallèle, dans un classement qui permet différents types d'exploration. Donc, autant on peut dire, mais moi, j'ai envie d'aller voir ce que le Getty Museum de Los Angeles présente, autant je peux aussi aller vers une sélection artistique où on va me présenter des œuvres de Leonardo da Vinci, exemple, dans un musée comme dans d'autres, une œuvre, une recherche thématique, etc. Donc, ça permet beaucoup de liberté. Parallèlement, il y a aussi plusieurs préoccupations qui jaillissent de ce projet-là.
J'imagine.
C'est surtout au niveau des droits d'auteur, en fait,
okay.
La problématique, dans la mesure où les ententes qui sont passées avec les musées dans le contexte du Google Art Project, c'est, regardez, nous, on fait la diffusion des œuvres, vous payez les droits de diffusion de ces œuvres-là lorsqu'il y en a. Donc, évidemment, quand on parle d'œuvres qui sont désormais libres de droits, il n'y a pas le même impact, c'est simplement les musées qui décident de rendre leur collection disponible. Par contre, là, lorsqu'on parle de l'art contemporain, ben là, ça risque d'amener des dépenses plus importantes de la part des musées, donc ça risque aussi d'amener l'intégration de cette part de l'art-là plus difficile dans le contexte d'un projet comme ça, puisque pour l'instant, il n'y a pas de support financier donc, qui est offert pour ce type de vitrine-là. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ce type, justement, d'outils de la part du public. On en a l'exemple du château de Versailles. Le deuxième référent vers le site du château après Wikipédia, c'est le Google Art Project. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent.
Ouais.
Et donc, est-ce que ça vaudra la peine pour les musées de dépenser, justement, et d'augmenter des budgets pour une diffusion virtuelle de leurs œuvres contemporaines? Ou est-ce qu'on essaiera tout simplement d'attirer avec les collections plus anciennes vers les musées pour faire découvrir d'autres formes d'art?
Ouais, c'est ça.
Pour amener les gens aussi avec les musées, parce que les conservateurs consultés dans les différents médias le disent, regardez, il n'y a rien qui va remplacer le contact direct avec l'objet, même si on est capable d'aller le voir, cet objet-là, avec une grande précision, ça reste du virtuel.
Oui, effectivement.
Alors, c'est à suivre, mais d'ici là, ben, visitons-le, ce musée. Et sinon, ben, quelques éléments plus rapidement, notamment, bonne nouvelle pour les gens qui vont aller faire un tour à New York ou pour les gens qui habitent à New York, c'est la Fondation Guggenheim qui a décidé d'ouvrir un peu un programme de collaboration avec des conservateurs étrangers extra-occidentaux. Donc, on s'est rendu compte que souvent, on restait à l'intérieur des scènes contemporaines américaines ou européennes, mais qu'on en sortait relativement peu. Et donc, l'équipe du Guggenheim Guggenheim ont décidé d'aller chercher des conservateurs invités d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, et ils leur demandent, avec un budget évidemment, d'aller acquérir des œuvres d'art contemporaine de ces régions-là pour permettre au public occidental de les voir, de pouvoir les découvrir. Alors, je trouvais ça très intéressant.
Mais oui, puis ça permet de se confronter à d'autres choses, d'autres mentalités, d'autres perceptions de l'art également.
Exactement. Alors, à suivre également du côté du Guggenheim. Sinon, la semaine dernière, Julie, on parlait de Papier 12, donc cette foire de l'art contemporain à Montréal. Est-ce que ça a été un succès?
Eh bien,
un très gros succès même. En fait, 10 000 personnes qui ont été y assister. Et l'idée, évidemment, c'est aussi de faire des ventes. C'est une foire de galeries d'art. Alors, ils ont vendu 700 000 $ d'œuvres d'art au cours de l'événement. C'est une hausse par rapport à l'année dernière, en fait, où on parle d'à peu près 695 000. Donc, on reste dans le même environ, avec une légère hausse également au niveau du public, puisque l'année dernière, il y avait eu 9 000 personnes. Et en fait, en termes de comparatif, là, il y a la foire de Toronto qui se compare à celle de Montréal, donc en termes de fréquentation, en termes de vente. Mais donc Montréal qui se retrouve au deuxième rang au Canada.
Quand même.
Et d'ailleurs, Montréal qui va se relancer en événementiel avec la première Biennale internationale d'art numérique qui commence le 18 avril, qui va se terminer le 13 juin. L'idée est d'organiser un événement qui va permettre d'explorer la version numérique de l'art. En fait, le directeur artistique de la Biennale, Alain Thibault, a dit, j'ouvre les guillemets, « Le numérique est partout. Il s'est immiscé dans notre quotidien avec une telle subtilité qu'on en a oublié sa présence. Il est phénomène quasi mystique pour les uns, source de dépendance pour les autres. En 2012, il n'est plus possible de parler de création artistique sans que le numérique soit impliqué. Alors, ils vont offrir une programmation internationale avec une cinquantaine d'artistes, beaucoup d'événements, donc une mini-manif d'art au bout du compte. De leur côté, ça commence donc dès le 19 avril avec notamment une version 3D immersive du spectacle Lip-Sync de Robert Lepage qui va être présenté du côté du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il y a plusieurs événements comme ça aussi qui vont se poursuivre, donc quand même un mois. Et plus d'un mois même assez actif du côté de la métropole.
Même deux mois presque.
Deux mois, en fait, c'est ça. Un gros événement, une grosse première. Ce sera intéressant de voir comment ça va marcher aussi de leur côté.
Et quelle forme ça prend. Hein?
Exactement. Qu'est-ce qu'on va nous offrir aussi? Qu'est-ce qu'on aura choisi de mettre de l'avant? Parce que là, pour l'instant, on a les démarches, on a les descriptions des artistes sur le site, mais il n'y a rien qui remplace le contact direct avec l'œuvre. On le disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi de mettre de l'avant dans l'art numérique? Est-ce qu'on y va avec des éléments très, très, très variés, avec une cohésion plus grand public? Bref, ça sera à voir. Et une petite dernière en terminant, puisqu'on parle de numérique, simplement pour vous informer qu'il y a un organisme de Québec, Exmuro Art Public, qui a lancé récemment une étude, un petit sondage, en fait, qu'on peut aller remplir sur leur site, en fait, ou sur Google, taper Exmuro sondage. Ça va vous amener
par le biais de Facebook aussi.
Par le biais de Facebook. Et donc, l'idée, c'est de voir quelle pourrait être l'utilisation que le public, que les galeries, que les diffuseurs et que les artistes pourraient faire d'outils technologiques, d'outils numériques de diffusion.
Donc voilà, participez-y pour une meilleure accessibilité. Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On t'écoute vendredi à la vie en BD.
Oui, et notamment Jimmy Beaulieu, Le temps des siestes, le livre et l'exposition à Morgan Bridge.
Ben voilà, on s'en va en pause audio, on écoute À main au nord. Au retour, on discute avec Nicole Jagras. On vient d'entendre un extrait de la pièce Ame Ona du duo roumain Macunucci Bento. C'était une suggestion de Simon Roy. Et au bout du fil, on rejoint Nicole Gingras, qui est commissaire de la manif d'Arcis. Bonjour.
Bonjour, Julie.
On est à quoi, 2 semaines de la manif d'art? J'imagine que là, ça doit commencer à rouler pas mal, hein?
On est, bien oui, bon, là, c'est le dernier sprint. C'est la préparation des installations, le montage des expositions. Donc oui, ce sont des journées très bien remplies. Et bon, il y a eu on attend le catalogue, le programme qui devrait sortir d'une minute à l'autre. Donc tout va être prêt.
Tout va être prêt, mais on est vraiment dans les derniers sprints finaux, finalement. Madame Gingras, vous avez choisi, on en avait déjà parlé, mais j'aimerais qu'on en reparle. Vous avez choisi pour thématique les machines, les formes du mouvement. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cette thématique-là?
Je voulais, en fait, peut-être réfléchir à la notion d'invention derrière le processus de création en art actuel et aussi attirer l'attention sur différentes manières d'explorer le mouvement et comment les artistes pensent le mouvement, comment ils le rêvent, comment ils le créent. Et ce sont des éléments qui sont très, très visibles, très forts actuellement dans l'art contemporain, que ce soit en art visuel ou en art médiatique. Et j'ai pensé que cette thématique pourrait être un thème rassembleur à la fois de différentes pratiques, différents médiums, et aussi qui permettrait de faire un passage entre des pionniers du cinéma d'animation ou des pionniers de l'art cinétique ou de la robotique avec des gens qui sont soit leurs premières armes ou qui ont une pratique, disons, mature, mais sans être des pionniers. Donc, c'est une thématique qui me permettait de faire, de réfléchir à quelque chose aussi qui est très important, essentiel dans notre vie, c'est que tout est mouvement autour de nous, et nous sommes mouvement. Donc, c'est une façon de lier aussi à la fois le conceptuel et l'humain, disons. Donc, c'est ça, c'est les grandes lignes, mais il y aura plus que ça, je pense, lorsqu'on aura fait le tour de toutes les expositions, les conférences, les rencontres, les classes de maîtres, qu'on aura fait au concert et aux projections de films, je pense que le public sera en mesure de voir que ce thème est encore beaucoup plus vaste et puis que chacun peut l'animer, finalement, parce qu'il y a ça derrière cette thématique, là, qui nous anime, mais comment on anime une idée, une réflexion. Donc, ça joue autant à un niveau conceptuel ou philosophique qu'à un niveau très, très pratique, très ancré dans le réel. Et je pense que plusieurs des œuvres vont le refléter vraiment très, de manière très, très concrète.
Vous aviez parlé tout à l'heure que vous avez intégré justement des œuvres de pionniers. Est-ce que c'était important pour vous d'ancrer un peu votre thématique ou d'ancrer l'art dans une perspective historique?
Oui, moi, je dirais que lorsque je fais, je pense, des expositions de groupe, pour moi, c'est toujours important de montrer des œuvres récentes, des œuvres inédites, mais aussi de dire d'où on vient ou faire même des fois... créer des tensions ou des frictions entre des œuvres qui peuvent avoir 30 ans de différence, mais qui sont presque semblables. Donc, je pense qu'un événement comme la manif, c'est un cadre où c'est un contexte de réflexion aussi, de réflexion sur l'art, puis et sur comment les artistes se nourrissent les uns des autres et aussi peuvent se nourrir de d'autres influences qui peuvent venir du côté du génie, de l'ingénierie ou la robotique. Donc c'est ça, j'essaie de... je pense que c'est important de savoir d'où on vient. Évidemment, peut-être des gens vont dire il y avait d'autres pionniers qu'on aurait pu associer. Oui, évidemment. Moi, j'ai mis l'accent sur des gens qui sont liés au cinéma d'animation parce que je trouve que c'est moment, c'est un médium qui est très riche et puis qui permet de penser le mouvement, mais qui permet aussi de penser l'arrêt, parce que le cinéma d'animation se fait image par image, soit par des photographies, des dessins. Et je me disais, ah, tiens, c'est important de faire ressortir quelques cinéastes d'animation, mais aussi, comme je disais, des gens qui sont connus pour la robotique et l'art cinétique.
Et, mais vous parliez, en fait, de cinéma d'animation. En fait, le cinéma d'animation, c'est aussi l'image en mouvement. Puis ça, c'est quelque chose qui semble vous intéresser depuis un certain temps aussi dans votre pratique de commissaire.
Oui, je dirais que je tourne autour de cette question du mouvement, de la tension entre la photographie et le mouvement, la mise en mouvement de la photographie, où il y a certaines personnes qui parlent de réanimation du mouvement. Depuis peut-être 25 ans, c'est quelque chose qui continue à me nourrir. Et puis, les artistes réfléchissent, travaillent, créent, inventent aussi d'autres façons d'animer les images. Et je suis toujours à l'affût là, de ces nouvelles recherches.
Pour la manif, vous avez décidé, plutôt que de sélectionner des artistes, de choisir des œuvres. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Peut-être l'idée d'une plus grande rigueur dans le respect de la thématique?
C'est sûr que j'ai écrit cette phrase parce que pour moi, c'est très important lorsqu'on fait des événements de cette envergure, de dire que, en tout cas, moi, ma pratique comme commissaire, c'est que c'est important de mettre les œuvres en relation les unes avec les autres. Donc, c'est évidemment, derrière chaque œuvre, il y a un artiste, mais il serait facile de dire on a tel artiste, tel artiste, tel artiste. Mais pour moi, quand on dit ces noms-là, ça veut dire très peu, tant qu'on ne sait pas quelle œuvre a été choisie.
Ouais.
Et donc, c'est pour ça que j'ai comme énoncé cette phrase, je pense que c'était dans un des communiqués. C'est vraiment de mettre l'accent sur l'œuvre. Peut-être, bon, la question de rigueur, oui. Je pense que quand on fait des expositions qui demandent une recherche sur plusieurs mois, oui, la rigueur, elle est là. C'est aussi pour dire qu'on pourrait tomber dans le star system.
Oui, c'est ça.
Et dans le fond, les artistes qui sont invités à la manif cette année sont tous des artistes extraordinaires. Plusieurs ont une feuille de route vraiment extrêmement bien remplie. Je dirais que je ne mets pas ça de l'avant. Je mets plus leur œuvre.
Oui.
Ce qui va être intéressant de remarquer aussi, c'est que certains artistes vont avoir plusieurs œuvres.
Donc, oui, c'est ça que j'avais remarqué. Je voulais vous en parler, justement.
Oui. Donc, on va, pour différentes raisons, parfois parce que tel artiste fait de la sculpture, mais aussi de la vidéo, ou fait un travail autour du son. Et pour moi, c'est important de dire, tiens, on va montrer l'ampleur de la pratique de quelques-uns de ces artistes en les exposant dans différents lieux. Donc, ils vont être en relation, chaque œuvre va être en relation avec d'autres œuvres de d'autres artistes, et on va peut-être voir la complexité, la richesse de leur pratique respective.
Puis pour le choix des œuvres, est-ce que vous semblez avoir procédé par invitation plus que par appel d'offres, si je comprends bien?
Oui, tout à fait. Je suis allée vers les artistes, j'ai fait une recherche, j'avais des gens en tête. C'est sûr qu'en passant ma chaîne, il y avait déjà des noms auxquels je pensais, des œuvres que j'avais vues, des œuvres parfois que j'ai vues il y a 20 ans et qui je me disais, tiens, c'est important de revenir à repenser, à replacer cette œuvre-là. J'ai reçu quelques dossiers, évidemment. J'en ai choisi parmi les dossiers que j'ai reçus. Mais je suis allée vraiment vers les artistes. Et parfois, on m'ouvrait leur atelier, mais on me présentait telle œuvre. Et là, je me disais, c'est pas cette œuvre-là que j'ai envie de présenter, c'est l'autre qui est à côté. Qui est en train de se développer ou que j'ai vu dans une exposition l'année passée, mais que je me dis, tiens, c'est parfait pour nourrir la thématique. Donc, c'est ça. C'est un travail d'accompagnement, hein. C'est un travail de recherche auprès des artistes et puis c'est beaucoup, beaucoup beaucoup de... C'est une relation avec tous ces artistes. Certains, ça a été une relation via Internet, et d'autres, ça a été vraiment suivi en les visitant dans leur, à leur atelier sur un an, à différents moments, pour qu'on puisse voir le développement de l'œuvre en question. Donc, il y a beaucoup d'œuvres, plusieurs œuvres inédites hein, pour la manif cette année.
Puis vous dites que c'est un travail de collaboration avec les artistes. J'imagine aussi que c'est un travail de collaboration avec les centres d'artistes de Québec oui. et les galeries, parce que là, vous avez élaboré la programmation, pas seulement pour l'espace central, mais pour toutes les expositions, d'accepter les activités satellites.
Oui, et ça, j'ai été vraiment très choyée. C'est que bon, les centres d'artistes m'ont accueilli. On s'est rencontrés d'abord, j'ai expliqué la thématique et par la suite, je leur ai fait des propositions, une proposition pour chaque lieu. Certains centres, comme l'Œil de Poisson, ont deux galeries, donc j'ai proposé deux artistes. À Vue, ils ont deux espaces, mais j'ai proposé à Vue de présenter une artiste dans la branche, ouais. Toutes les salles. Donc, oui, ça a été vraiment un échange, mais aussi, je connais aussi, il fallait que je connaisse aussi bien l'orientation de chaque centre pour arrimer finalement l'artiste avec le mandat de chaque centre d'artiste pour que ces artistes-là soient dans le prolongement de la programmation que chaque centre d'artiste développe et puis qu'ils puissent rencontrer aussi les membres de ces centres d'artistes. Donc, ça a été, c'est un beau puzzle, mais un beau casse-tête, mais très, très, très stimulant. J'ai hâte de voir, je pense que dans deux semaines, on va voir si les intuitions sont les bonnes, mais c'est intéressant de penser que, au lieu, on a un artiste qui est à la fois dans la performance, mais aussi dans l'intuition.
Ouais.
Et je savais que le lieu, on pouvait, l'artiste doit arriver comme une dizaine de jours avant, pour commencer à monter son installation. Donc, pour moi, ça allait de soi que Cantorio, qui vit à Tokyo, était la bonne personne à associer avec le lieu. Donc, ça s'est fait comme ça, vraiment, par association, je dirais, comme c'est des affinités électives, là, des atomes crochus entre chaque espace. Parce que c'est ça, c'est à la fois la vocation de centre d'artiste, mais aussi composantes architecturales, le volume. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'installations et puis il y a des œuvres qui ne peuvent pas être présentées sur un plancher de béton, qui peuvent être sur un plancher de bois. Donc, il y en a d'autres qui ont besoin de lumière du jour. Donc, il y avait toutes ces
paramètres-là.
Oui, qu'on doit considérer finalement.
Bien, Madame Nicole Gingras, vous nous montrez la complexité du travail que vous avez eu à accomplir pour la manif d'Arcis. On a bien hâte. D'ailleurs, la manif commence le 3 mai. Elle a lieu jusqu'au 3 juin. Je pense qu'on va revoir d'autres nouvelles d'ici là. Mais je vous remercie beaucoup.
Ah, c'est moi qui vous remercie. Dans le fond, c'est ça. Je pense qu'on peut voir aussi la métaphore de la machine. C'est que la manif d'art est une grande machine à faire penser le public, réagir ou lui faire découvrir aussi des expériences, parce que c'est ça, là, c'est aussi c'est des expériences qui sont à la fois dans les lieux mêmes d'exposition, mais on ramène quelque chose chez soi, il se développe quelque chose dans notre mémoire et ça se prolonge. Donc, je pense que l'intensité d'un événement comme la machine laisse des traces. Et vous l'avez vécu, là, ça va être la sixième cette année. Donc, je suis sûre que ça laisse des traces dans l'imaginaire des gens qui vivent à Québec et aussi tous ceux-là qui vont passer. C'est pour ça qu'on fait ces événements-là.
Mais oui, hein?
La dimension exposition est importante, la présentation, la diffusion des œuvres et le travail des artistes est essentiel, mais il y a autre chose après qui est comme...
Mais on se nourrit l'âme et l'esprit avec l'art.
Tout à fait.
Ben, Nicole Gingras, merci beaucoup.
Au revoir.
On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Amélie Laurence Fortin.
Oui, je prendrai une émission de jazz avec du blues et du folk accompagné de chansons francophones.
Alors, ce sera une émission de jazz avec du blues et du folk accompagné de chansons francophones.
Oui, merci.
Merci d'avoir choisi ça. CKRL, avancez sur ckrl.qc.ca.
Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous.
C'est parti.
Ma boîte à cassette.
La boîte à cassette.
Ta boîte à cassette.
Boîte à cassette.
Boîte à cassette.
Ma boîte à cassette.
Ma boîte à cassette.
C'est Robert Charlebois. J'aimerais bien entendre ta boîte à cassette. Ça me changerait de la boîte à chansons.
Ma boîte à cassette. Avec Jean-Philippe Deschênes, les mardis à 20h30.
Boîte à cassette. De Allman Brothers. Franz Zappa, c'est le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui. Concentré sur une seule fréquence. Tous les mardis dès 22h avec François Thériault et Martin Anger.
À la découverte de l'univers de la bande dessinée, du manga, de l'animation, de l'illustration La vie en BD, en compagnie de Laurent Poirier et son équipe, tous les vendredis dès 17h30. CKRL, votre porte d'entrée vers le 9e art. CKRL, 89.
Cette soirée est une présentation du bal du lézard.
26 ans de spectacle.
26 ans d'exposition. 26 ans à recycler.
26 ans de produits du Québec.
26 ans de bonne musique.
26 ans de party.
26 ans à s'impliquer dans le quartier.
26 ans d'entraide.
26 ans à changer le monde.
26 ans de Limoilou libre.
Souvent imité, mais le bal, c'est le bal.
1049 3e avenue Limoilou. Le bal du lézard.com.
Il est légèrement passé 18h, vous écoutez toujours l'aérospatiale, je l'ai gagné avec vous jusqu'à, j'allais dire 21h, mais non, c'est plutôt 18h30 quand même. L'émission dure une heure, je laisse la place aux autres animateurs de CKRL et je suis à l'instant rejointe, en fait, plutôt au téléphone par Amélie Laurence-Fortin qui est en Angleterre, bonjour.
Hello.
Ça va bien?
Oui, très très bien, toi?
Oui, tu es en Angleterre pour un projet, une résidence?
Non, en fait, je fais de la recherche à la British Library.
Oh, OK.
Oui, j'ai plein de... J'ai toujours un petit peu de recherche à faire là-bas, donc j'ai profité d'un deux semaines de rien à faire au Québec pour m'envoler en Angleterre, puis c'est très rapide.
Ben oui, hein? Oui. Dis-moi, tu présentes Exploit en ce moment chez vous. Peux-tu nous présenter peut-être de manière générale l'exposition?
Oui, en fait, Exploit, c'est une exposition qui a été réalisée dans le cadre d'une résidence avec vue. Moi, je suis pas un artiste photographe à l'origine, donc j'ai pris la chance d'avoir cette résidence-là pour explorer le médium photographique à partir d'un projet qui s'étend à long terme sur la dimension de l'exploration, de l'aventurier, de l'explorateur. Ce que j'ai décidé de faire pour cette exposition-là en particulier, c'est de travailler à partir du sujet de l'explorateur lui-même. Donc, j'ai décidé de partir à la recherche d'un explorateur qui s'appelle Roy Willie Johansson, qui est un aventurier de kayak qui essaie de partir du Groenland pour se rendre en kayak de mer jusqu'à Terre-Neuve, le trajet qu'ont fait les Vikings en l'an 1000,
okay.
Et puis qui a péri en fait en cours de route. Et puis à partir de ce personnage-là, j'ai décidé de retracer faire un rapport entre l'archive fictive et l'archive réelle d'une exploration, puis donc du trajet de l'explorateur, qu'est-ce qu'il y en est, quels sont ses... quelles ont été ses aventures, qu'est-ce qui aurait pu être ses photos retrouvées, etc.
Puis ces photos-là, dans le fond, c'est les photos que toi, t'as prises, j'imagine?
Oui, effectivement.
C'est des photos de ton voyage?
En kayak de mer pour aller faire un shooting photographique pour un peu rentrer dans cette ambiance-là, ce lien-là que l'explorateur a dans... L'explorateur est... Quand il est solitaire, un rapport très particulier à la nature, à l'environnement, puis cette espèce de solitude, cette contemplation-là, puis aussi un peu cette mort-là probable là, qui est décrite dans cette exposition.
Puis en même temps, ben, il y a réellement, quand tu parlais d'archives fictives, il y a aussi des vraies archives, donc les articles de journaux, par exemple, et autres documents.
Oui, qui ont été assez durs à trouver, je veux dire franchement, parce que le personnage est norvégien, donc essayer de retrouver les articles, ça a été toute une histoire. En fait, c'est ce qui fait cette exposition-là, c'est de l'idée de partir de quelqu'un qui a vraiment existé, puis essayer de le retracer, de retrouver où il en était, qu'est-ce qu'il était, etc. Ça amène à des surprises un peu, puis du hasard. Puis vu que c'est une résidence, ben je me suis permis de jouer avec le hasard de cette découverte-là, qu'est-ce que ça allait pouvoir m'amener à découvrir ou à mettre formellement dans l'espace de la galerie. Et puis, donc, ça a été une surprise à tous les moments, là, qu'est-ce qui allait apparaître ou qu'est-ce qui allait pas apparaître de cet explorateur.
Mais en même temps, c'est intéressant parce que ton thème est l'exploration et toi, tu explores aussi le médium de la photo dans le cadre de ta résidence.
Exactement, ça a été, je voudrais dire, une super belle aventure, là, pleine de, justement, là, ça a été une belle aventure pleine de hasards, de surprises surtout, j'aime beaucoup l'effet très... c'est sûr que ça traite de la mer, c'est très, très maritime, donc il y a un état de contemplation, de solitude très, très grand dans cette exposition-là, mais à la fois, ça traite aussi de ce que vit un explorateur quand il traverse des kilomètres et des kilomètres en solo dans l'océan Arctique ou quel que soit l'endroit où il va traverser. Mais dans le cas de Roy Willy, là, le fait qu'il a traversé en premier lieu 245 kilomètres entre deux bouts de terre. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où il a été en solitaire dans une grande solitude maritime. Puis je pense que c'est ça qui sort très, très bien là, par mes photos. Là.
Puis toi aussi, je veux dire, je pense que tu es déjà toi-même passionné de kayak de mer, donc j'imagine que ça influence aussi ton travail.
C'est sûr et certain que ben, l'exploration, l'aventure, tout ça sont pas des thèmes fortuits. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, donc c'est des réflexions qui ont débuté par une expérience propre. Donc c'est pas comme si j'allais chercher un élément qui m'appartient pas, que je trouve fascinant pour le développer. Ce sont toujours des éléments qui sont développés à partir d'une réflexion hyper concrète sur le sujet auquel je m'informe beaucoup. J'accorde énormément de place dans mon travail à une certaine recherche de l'expérience.
Puis, dans l'exposition, on a parlé des photos, on a parlé des archives, mais il y a autre chose également, notamment au sol, sur un, je ne sais pas si je peux dire un socle, mais tu présentes comme des billes de verre qui sont éclairées par en dessous, avec des formes qui rappellent peut-être les vagues, qui rappellent peut-être les montagnes, ou...
Ben dans le en fait il y a beaucoup de gens qui voient les vagues ou les icebergs dans cette espèce de c'est comme des lignes de lumière en fait dans une boîte lumineuse très très longue mais en fait on va dire concrètement là, vu que j'étais vraiment dans le personnage, dans son sujet, dans où il est allé, qu'est-ce qu'il a vécu, les journalistes qui ont écrit sur lui à sa mort, etc., les gens qui l'ont retrouvé, je me suis aussi intéressée au lieu spécifique où il est mort. Okay. En fait, il y a eu une crise cardiaque en mer, mais le lieu spécifique, comme il est mort dans l'Atlantique Nord, il y a tout le temps des coupes de salinité de l'eau, en fait, qui sont faites par Pêche Canada.
Okay.
Et puis, pour déterminer où il y a le plus de poissons, où il y a moins de poissons, etc. Et puis, finalement, c'est seulement le graphique de la coupe de salinité de l'eau au point précis où lui est décédé, en fait, dans son expédition. Donc, c'est le jeu formel est aussi, on va dire, au niveau de l'archive encore, là, mais c'est un jeu formel là, dans cette exposition-là.
Puis tu présentes aussi une vidéo.
Mm-hmm.
Une vidéo, donc, on est sur l'eau, c'est le soir, on entend discuter. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir présenter ça? Parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes sur la vidéo.
En fait, tout le début de la recherche, là, t'as commencé à poser la question tout à l'heure, mais j'ai pas répondu clairement. Tout le début de cette recherche-là sur l'exploration, l'expédition, l'explorateur vient d'une grosse expédition que j'ai réalisée en Alaska jusqu'à Vancouver en kayak d'océan. Et puis, quand j'étais dans la volonté de cette expédition-là que j'ai faite en 2010, c'était de ramener énormément d'archives, de pouvoir en faire un film, de tout enregistrer, de photographier, beaucoup, beaucoup d'éléments, tout ça, pour pouvoir revenir avec un matériel vivant. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, sur l'eau, il y a beaucoup de contraintes. En Alaska, il n'y a jamais de soleil, donc on a nos batteries déchargées. On n'avait jamais de soleil pour les recharger avec le panneau solaire, ce qui fait que je suis revenue avec absolument presque aucune archive de cette expédition-là, sauf quelques éléments, dont ce qu'on voit sur la vidéo, qui est une archive d'un moment donné où finalement il y avait beaucoup trop de grizzlies dans le coin, donc on s'est ramassé sur un quai où plein de pêcheurs allaient s'arrêter entre deux grosses villes parce que presque rien en Alaska, il faut quand même s'entendre.
Oui.
Donc, on était sur un quai, puis finalement, c'est comme le seul moment viable où je pouvais faire de la vidéo, puis j'ai filmé pendant super longtemps. Donc, j'ai utilisé ces deux vidéos-là parce que ces deux vidéos-là, quand on les met ensemble, puis on les regarde longtemps, ça donne un peu le mal de mer.
Oui.
Fait que c'est encore un élément, on va dire formel, là, dans cette exposition-là, un élément un peu anecdotique aussi là, qui rappelle le départ là, de ma recherche, finalement.
Puis peut-être, dernière question, en fait, dans le communiqué, on nous présente l'exposition comme étant la deuxième partie d'une trilogie.
Oui.
Qu'est-ce qui s'en vient par la suite à ce sujet-là?
La première partie a été présentée à la Chambre blanche, c'était vraiment sur l'idéalisation de l'exploration. La deuxième partie, c'est sur l'explorateur, puis la troisième partie, c'est sur le paysage. Donc, la partie 3 que je suis en train de préparer, mais qui va me prendre un certain temps quand même, parce que je m'apprête à réaliser une pièce monumentale, mais ça va vraiment traiter du paysage dans son côté, dans son macro puis son micro. Donc, l'immensité et le très, très grand et le très, très petit à la fois dans une même pièce. Oui?
OK. Ben, Amélie Laurence Fortin, je te souhaite bonne chance dans tes recherches.
Merci.
Puis, on a jusqu'au 22 avril pour aller voir l'exposition Exploit qui est présentée à vue. Donc, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On s'en va en pause audio. On écoute Baké Kujira sur les ondes de CKRL.
Oh,
vient d'entendre un extrait de l'album Rainbow de Makunouchi Bento, un duo roumain. C'est assez surprenant, même si ça a l'air japonais. C'est une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver des liens pour le téléchargement gratuit, pour l'émission en balado-diffusion également, sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Mais aussi, je tiens à vous dire que CKRL s'est mis à l'ère de la balado-diffusion et c'est possible d'aller directement sur le site de CKRL pour écouter toutes vos émissions préférées au moment qui vous plaît. Donc, c'est très, très facile. Voilà. Et maintenant, je me tourne vers Dominique Savoie, qui est non pas là pour faire une chronique, mais plutôt pour une petite entrevue. Bonjour, Dominique.
Salut.
Ça va bien?
Oui.
Je t'ai invité, en fait, à titre d'artisane textile, à titre de membre de Colifichet, pour nous parler d'Arbre d'Avril, qui est présenté au Jardin Saint-Roch. Peux-tu nous parler, peut-être, justement, de cet événement-là?
Arbre d'Avril s'est fait dans le cadre du mois d'avril, qui est le mois du textile.
Okay.
Donc, un peu partout dans la province, plus précisément surtout à Québec et à Montréal, mais dans d'autres régions aussi, il y a plusieurs manifestations qui sont faites de toutes sortes, des expositions, des événements par rapport à justement le mois d'avril, le mois du textile. Puis, à Québec, l'une des manifestations, c'est manifestation, disons, événement.
Ouais.
On faut faire attention avec le terme.
Surtout en ce moment.
Ouais. Donc, l'événement Arbre d'Avril, c'est en fait une occasion pour différents artistes, artisans et même étudiants du textile de pouvoir, en fait, décorer certains arbres qui entourent le parc Saint-Roch, en fait, les jardins Saint-Roch.
J'imagine aussi que c'est l'occasion d'avoir une belle diffusion pour le textile qui, normalement, n'en a pas nécessairement tant que ça.
Oui, effectivement, c'est organisé par la Maison des métiers d'art de Québec. C'est une deuxième année consécutive. C'est encore très jeune comme événement, donc peut-être un peu moins connu, mais quand même, là, il y avait une douzaine d'équipes ou d'artistes là, qui ont participé cette année à cet événement-là, dont certains quand même qui sont dans le domaine du textile depuis plusieurs années.
Oui, comme Carole Baillargeon.
Carole Baillargeon, Mireille Racine, justement. Là.
On en reparlera de Mireille Racine parce qu'il est arrivé quelque chose de pas très plaisant, mais j'ai envie de parler de votre proposition à toi et aux filles de Colifichet. Vous avez tricoté un sosie du maire La Bombe.
Parce que c'est pas mal drôle, tricoter le maire La Bombe. Non, en fait, ça fait plusieurs, on pourrait déjà dire quelques années, en fait, qu'on est ensemble puis on travaille. Puis là, on commence à faire des projets de plus en plus ambitieux. Ça me tentait cette fois-ci de tricoter un personnage célèbre. Puis là, la première question, ça a été qui? On s'est dit, est-ce qu'on le fait personnage célèbre, mort ou vivant? On trouvait que c'était plus drôle qu'il soit vivant. Puis là, après, on s'est dit, de ces temps-ci, de qui on parle le plus, qui est-ce qui pourrait vraiment être un personnage célèbre de la ville de Québec? Puis là, tout d'un coup, le maire La Bombe nous a semblé une belle solution. Puis là, on s'est mis à regarder des images dans l'actualité du maire, puis on s'est dit que c'était le parfait cobaye pour l'expérience. Puis on s'est pris au jeu avec beaucoup de plaisir, je dois dire, puisque c'était quand même assez le fun à faire.
Oui, sûrement. Ouais. De toute façon, on sent que le plaisir dans tous vos projets est quand même là. Les choses sont tellement ludiques.
Oui. En fait, c'est un peu ça qui dirige nos choix. On veut que nos projets fassent rire, soient accessibles. Puis, nous fasse rire aussi. Il y a un plaisir à tricoter. Il faut qu'il y ait aussi un plaisir à voir le résultat à la fin.
Mais oui, puis samedi dernier, je crois, c'était le... Samedi ou vendredi?
Vendredi.
Dernier, c'était le vernissage. Donc, j'imagine vous avez eu l'occasion de voir les réactions des gens.
Oui, c'est sûr que tricoter d'abord un personnage en soi, c'est quelque chose d'assez cocasse, mais... Tricoter le maire d'une ville, c'est encore plus, qui plus est Régis La Bombe. C'est sûr, nous, en plus, notre arbre, c'est un arbre qui est situé au coin des rues de la Couronne-Sainte-Hélène.
Ouais, donc, aux arrêts d'autobus.
En plein dans l'arrêt d'autobus. Donc, c'est sûr que la visibilité était excellente. Donc, ça suscite toutes sortes de réactions. Tout le monde veut prendre sa photo avec le sosie. Tout le monde veut aller parler au sosie, lui faire leur demande. Oui, c'est ça. Beaucoup de commentaires, surtout positifs par rapport, c'est sûr, au tricot, mais aussi, peut-être des commentaires récurrents c'est concernant sa grandeur. Est-ce que c'est la bonne grandeur?
Est-ce que ça l'est? C'est ça que je me demandais.
Difficile, mais je crois qu'on est proche quand même de la réalité. C'est sûr qu'on n'a pas appelé le maire pour lui demander, on veut savoir 5 et 3, 5 et 4, on s'est fié à peu près à ce qu'on connaît de lui, aux images qu'on a étudiées, entre guillemets, dans l'actualité. Puis lui, est-ce qu'il est au courant?
Oui, bien, en tout cas, on lui a envoyé des photos, puis on lui a envoyé une invitation. Il devrait être au courant. On avait eu une réponse de la direction de son cabinet, mais comme il est très occupé, il n'a pas encore eu le temps de se déplacer. Donc, on espère quand même créer une rencontre entre le maire et son sosie.
Oui, c'est ça, d'avoir une photo.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on s'arrange pour en avoir une. Là. Si c'est pas le maire qui vient au sosie, ce sera le sosie qui ira vers le maire.
Une petite sortie à l'hôtel de ville.
Oui, ben, c'est ça. Sosie. Il est amovible, donc il reste pas là en permanence.
Mais là, c'est ça que j'allais dire. Là. Vous avez décidé de vous l'exposer, vous le sortez heures par semaine.
C'est ça. On l'a sorti officiellement pour la première fois au vernissage vendredi dernier. Sur l'arbre, il y a quand même quelque chose qui reste en permanence sur l'arbre. Donc, on a comme tricoté une espèce de robe pour notre arbre.
Avec un petit médaillon.
Avec un médaillon de la photo du sosie tricoté, puis une pochette avec des horaires, puisque le sosie fait des apparitions publiques.
Ah,
donc,
ben
c'est-à-dire
ouais.
qu'il est présent à son arbre deux ou trois fois par semaine. On a décidé que ce serait le dimanche et le mercredi midi. Si le beau temps nous le permet. Sinon, peut-être des sorties surprises qu'on annoncera éventuellement soit sur Facebook ou soit sur notre blog. Puis, donc, on le déplace. On ne veut pas le laisser sur place parce que, d'abord, ça a été beaucoup de travail. Puis, on est pas mal aussi certain que si jamais on le laisse là, il ne sera plus là le lendemain.
Mais oui, parce que là, c'est arrivé, la Mireille Racine présentait une œuvre. Puis, je pense, dans la soirée même du vernissage, ça a été volé.
Ben oui, quelques heures après le vernissage, en fait, l'œuvre a été volée. Et ou détruite. En tout cas, du moins, samedi matin, déjà, il n'y avait plus rien.
Maintenant, je suis allée dimanche, il n'y avait absolument rien. Ouais, quelques fils qui restaient collés à l'arbre.
C'est ça, c'est un peu malheureux. C'est un des risques à courir. Là. Comme l'événement est encore jeune, il n'y a pas de gardiens de sécurité qui sont attitrés. Là. Donc, c'était un risque à prendre quand on fait une exposition.
Vous, ça vous est arrivé aussi. L'année dernière, vous avez fait votre cabine, votre téléphone public. Il a été volé, je pense, vers la fin, par exemple.
Ben oui, l'année passée, on a tricoté un téléphone Bell, puis l'année passée, l'événement était un peu moins long. La dernière nuit, en fait, dans la nuit, juste avant le décrochage, quelqu'un est parti avec. Donc, quelqu'un a un beau téléphone tricoté dans sa maison. C'est sûr que c'est un peu dommage, mais en même temps, ça, c'est une chose, un risque à prendre. Mais cette année, comme on apprend de nos erreurs, on a décidé de faire quelque chose qui nous permettait de le déplacer et donc le réutiliser.
Oui, puis qui fait de l'événement aussi. Là, on s'entend, il faut se tenir au courant pour voir les apparitions publiques.
Exactement, exactement. Puis c'est comme c'est rigolo.
peut-être, dernière question, Dominique Savoie. As-tu des coups de cœur? Sur les propositions?
C'est sûr que c'est assez diversifié. Je dirais qu'il y a des trucs quand même assez intéressants. D'abord, une artiste qui n'est pas nécessairement issue du domaine textile, mais davantage peut-être de la sculpture, qui est Marie-Claude Hens, qui propose quelque chose qui est très subtil, mais qui est vraiment intéressant au niveau esthétique. En fait, c'est une espèce de... C'est dur à définir, une sorte de liane ou encore de ça ressemble presque à des queues de lion, faites avec des toques. Puis on dirait presque même faites avec le petit duvet d'une quenouille. Je sais vraiment pas comment elle le fait, mais c'est vraiment intéressant. Puis ça s'entortille dans le tronc d'un arbre. Puis donc visuellement, c'est vraiment intéressant. C'est à la fois magnifique et un petit peu troublant, mais l'effet est vraiment présent, c'est vraiment intéressant. Sinon, y a aussi y a des contributions intéressantes comme celle de Ilana Pichon qui a fait une lampe en fait qui est allumée en permanence, qui est une sorte de cocon. Donc, elle est plus issue quand même de l'architecture, du domaine de l'architecture, mais c'est sa première participation, donc c'est quand même assez intéressant.
Donc, il y a vraiment des propositions très, très diversifiées.
Très variées.
On en a quelques exemples.
C'est ça. Puis, il y a des étudiantes aussi en deuxième année de l'École des métiers d'art en textile qui a aussi fait une participation, donc un projet dans le cadre de leur cours aussi. Donc, ça peut être une belle visibilité pour elles aussi.
Bien, Dominique Savoie, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Puis, on se retrouve dans le cadre de la Manif d'art au mois de mai.
Absolument.
Dans un tout autre sujet. On fait une courte pause audio. On écoute un extrait de Joe Bocco sur les ondes de CKRL.
Voilà, c'était un mini extrait de la pièce Djouboko. Vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. En terminant, je vous invite au dernier événement, à l'événement de clôture de la campagne de financement Cube qui aura lieu vendredi 20 avril dès 18h à l'édifice de Fonds d'Action. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site lechambreblanche.qc.ca. Je termine en disant que dimanche 22 à 10h au Cercle, c'est l'encore d'œuvre d'art d'Engramme avec l'encanteur Raoul Demeul. Sur ce, je remercie Jacques Gignac. Je vous souhaite une belle semaine et je vous laisse entre les mains de Gilles Chaumel avec Faute d'Amérique.